Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Lisons déjà deux textes complémentaires. La prédication portera sur un passage de la deuxième épître de Pierre, mais nous lisons déjà deux textes complémentaires dans la Genèse, premier livre de la Bible. D'abord au chapitre 7. Alors le chapitre 7, c'est l'histoire du déluge. Nous lisons des versets 13 au verset 24. Genèse, chapitre 7, de 13 à 24. La main puissante de Dieu qui juge et qui sauve. Ce jour même, Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses trois belles-filles, entrèrent dans l'arche, avec tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche, qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains. Tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Toujours dans la Genèse, nous passons au chapitre 19. Et le chapitre 19, c'est aussi l'histoire d'un jugement de Dieu et d'une grâce accordée par Dieu à l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Nous allons lire trois portions de ce chapitre 19. Déjà, le premier verset. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Ensuite, les versets 12 à 16. Les hommes, donc ces anges du premier verset, dirent à Lot : qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit : levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Et maintenant, encore les versets 24 et 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Voilà, et maintenant le texte de la prédication. Alors, c'est à l'autre bout de la Bible, deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, nous lisons les 9 premiers versets. 2 Pierre 2, de 1 à 9, la prédication portera plus spécifiquement sur les 3 premiers, mais nous lisons les 9 premiers versets de ce chapitre. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement.
Le 18 janvier de cette année, en France, un pasteur évangélique et son épouse ont été condamnés pour détournement de fonds et recel. C'est 2 millions d'euros que le couple a détournés. À l'origine, cet argent avait été annoncé pour la construction d'orphelinats. Lors de la perquisition de leur domicile, il a été retrouvé 140 paires de chaussures et autres articles de luxe. Si vous avez regardé dernièrement certaines émissions qui s'intéressent au monde chrétien évangélique en Occident, vous y avez certainement vu des gens dont la vie, les paroles, offrent un mauvais témoignage, au point que vous êtes peut-être mal à l'aise désormais de dire que vous êtes chrétien parce que vous n'aimeriez pas que les gens vous assimilent à ces personnes. Beaucoup d'églises prêchent un évangile de prospérité. Leur message prône qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être riches, en bonne santé et avoir une pleine réussite dans tous les domaines de notre vie. Et malheureusement, un nombre de personnes très importantes suivent ces enseignements Ils constituent parfois des méga-church, dont l'une d'elles aux États-Unis dispose de 16 800 places assises et 45 000 personnes qui fréquentent le culte chaque semaine. Et pourtant, l'évangile qui est prêché est un évangile qui est centré sur l'homme, où Dieu serait un serviteur de l'homme et non l'inverse. Alors que penser de toutes ces choses qui se passent, de toutes ces personnes qui se disent chrétiennes, dont on voudrait se sentir proche et pouvoir se réjouir ensemble d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui peuvent nous sembler loin lorsqu'on considère ce qui est le centre de leur foi, ce qui est le centre de notre foi, quand on réfléchit à leur Dieu et à notre Dieu. Alors j'espère que la prédication d'aujourd'hui pourra vous amener quelques éléments de réponse, puisque la thématique donnée par le texte de l'épître de 2 Pierre, dans laquelle on chemine maintenant depuis un certain temps, est le thème des faux docteurs. Pour rappel, en résumé, Pierre sait qu'il lui reste peu de temps à vivre au moment où il écrit cette lettre, et il a rédigé un condensé de tout ce qu'on a besoin de savoir en vue de mener une vie fidèle, attachée à Christ jusqu'à son retour. Elle contient globalement trois thématiques. La première, que notre vocation de chrétien et nos privilèges doivent aller de pair avec notre croissance dans la sainteté. Ça, c'était une partie du premier chapitre. Ensuite, le fait qu'il faut repousser, réfuter toute tentative de nous induire en erreur avec de fausses doctrines et l'immoralité qui les accompagne. C'était principalement la fin du chapitre 1 et puis le chapitre 2 qu'on aborde aujourd'hui. Et puis pour finir, que les chrétiens sont appelés à vivre à la lumière du retour du Seigneur qui approche, et ça, ce sera principalement le chapitre 3. Donc jusqu'à présent, après que le Seigneur, au travers de Pierre, nous ait rappelé le solide fondement du salut par grâce, il nous a rappelé que le salut est suivi de fruits, des œuvres dans lesquelles nous sommes appelés à grandir en faisant tous nos efforts. Puis le chapitre 1 se terminait sur le solide fondement et l'autorité de la parole pour nos vies, soulignant son origine entièrement divine et la nécessité de la lire régulièrement et de s'en imprégner jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur. En une phrase, on avait vu que la Bible est la parole de Dieu donnée aux hommes, contrairement aux faux prophètes qui ont des paroles d'hommes à propos de Dieu avec un petit dé. Maintenant que Dieu, au travers des écrits de Pierre, a établi le véritable évangile et le fait aussi que la Bible est la seule source fiable sur laquelle nous devons nous appuyer pour diriger nos vies et évaluer également les enseignements que nous recevons, nous sommes désormais équipés pour faire face à la suite, à savoir traiter des faux docteurs. Le verset 1 nous dit « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. » Alors, commençons par clarifier qu'est-ce que c'est qu'un docteur. À quoi fait référence ce thème dans ce texte, ou ce mot dans ce texte? Le nouveau dictionnaire biblique nous dit qu'un docteur s'applique, le terme docteur s'applique aux chrétiens qui ont reçu le don d'enseignement. On voit que Paul, dans Éphésiens 4:11, conjugue ensemble les termes pasteur et docteur, ce qui est logique puisque un pasteur doit être apte à l'enseignement. Et cela peut autant être en vue de l'évangélisation des gens qui ne connaissent pas Dieu que de l'édification des chrétiens qui appartiennent à Dieu. Un docteur est donc un enseignant qui pratique cet enseignement indifféremment auprès des non-chrétiens comme auprès des chrétiens. Une petite précision encore, pour cette prédication, j'utiliserai le terme « docteur »,« enseignant » de manière synonymique, puisque c'est réellement des synonymes. Maintenant, comme le dit John MacArthur, le pire péché, et qui est aussi la pire œuvre pour un enseignant, est d'affirmer parler au nom de Dieu pour le salut des âmes, alors qu'en réalité, ils parlent au nom de Satan pour leur perdition. Et c'est en fait ce qui nous amène au faux docteur. Un faux docteur est donc un enseignement qui enseigne des mensonges, des hérésies de perdition, comme on le verra dans la suite du texte. Les caractéristiques plus approfondies des docteurs feront, si Dieu le veut, l'objet d'une prochaine prédication. En fait, tout le chapitre 2 traite des faux docteurs. Les versets 10 à 22 traitent plus particulièrement justement de leurs caractéristiques. Donc c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Toutefois, aujourd'hui, j'aimerais quand même souligner une première caractéristique qui est très importante, puisque c'est d'elle que découle tout le reste. C'est que la première caractéristique des faux docteurs, c'est qu'ils ont renié Jésus-Christ. Ils ont renié le Maître, c'est ce que nous dit le texte. Alors, pas forcément extérieurement en paroles, mais déjà en tout cas intérieurement dans leur cœur, et également dans le fait que quand ils parlent de Jésus-Christ, quand ils parlent du Christ, ils ne parlent pas du Dieu qu'on retrouve dans la Bible, en fait, mais d'un Dieu qu'ils ont créé à leur image, selon ce qui les arrange. Pour aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, dans les versets 1 à 9, c'est la certitude de l'existence de ces faux docteurs, leur manière d'amener les faux enseignements, ceux qui les suivront dans leur dérèglement et les calomnies qui s'en suivent, leur motivation principale, et en une conclusion en deux parties. Donc la certitude de l'existence des faux docteurs, leur manière d'amener les faux enseignements, ceux qui les suivront dans leur dérèglement et la calomnie qui s'en suit, leur motivation principale, et une conclusion en deux parties. Donc le verset 1 commence par souligner la certitude de l'existence des faux docteurs. Pierre n'est pas en train d'émettre une supposition du type « Je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir parmi vous de faux docteurs » ou de parler d'une probabilité. C'est possible qu'à un moment donné, il y ait de faux docteurs parmi vous. Non, Pierre nous dit qu'aussi sûr qu'il y a eu de faux prophètes dans l'Israël, dans l'Ancien Testament, aussi certain, il y a de faux enseignements aujourd'hui parmi nous. Alors, si vous voulez quelques exemples de faux prophètes qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, ça commençait déjà quand Israël était dans le désert avec Balaam et l'ânesse qui s'est mis à parler pour le détourner de sa folie. On peut encore penser aux 400 prophètes avec Sédécias du temps des rois Achab et Josaphat qui promettaient la victoire dans l'entreprise qu'ils souhaitaient entreprendre, mais qui s'est soldée par un échec et la mort du roi Achab, alors que Michée, lui, le seul vrai prophète parmi les autres, avait annoncé cela. On peut penser à Anania du temps de Jérémie et de l'exil qui avait annoncé que les ustensiles du temple et le peuple en exil reviendraient dans 2 ans, que Dieu allait briser le joug du roi de Babylone, ce qui était faux et qui se solda aussi par la mort du faux prophète, c'est en Jérémie 28. Et puis pour terminer, ceux qui ont suivi l'étude biblique sur Néhémie, vous vous souvenez peut-être de Shemaïa, fils de Delaïa, qui tout en disant parler de la part de Dieu, voulait en fait pousser Néhémie à pécher contre Dieu en s'enfermant dans le temple. On retrouve ça en Néhémie 6. Voilà, c'est simplement quelques exemples tirés de l'Ancien Testament. Puis vous verrez plus tard dans l'Épître, Pierre dit qu'il cherche à éveiller nos souvenirs à propos de la parole. Donc voilà, c'est l'occasion d'éveiller quelques souvenirs. La présence de faux enseignants dans l'Église, hier, aujourd'hui et demain, est donc une certitude. Maintenant, dans ce passage, il dit « parmi vous ». Alors, est-ce qu'il faut désormais commencer à regarder chaque enseignant qui vient prêcher de travers, avec les yeux plissés, pleins de méfiance, voire même chacun de nos frères et sœurs qui aiment partager les choses à propos du Seigneur, cherchant qui est le ou les faux prophètes parmi nous? Pour répondre à ça, demandons-nous simplement à qui Pierre écrit cette lettre. Est-ce que vous vous rappelez à qui cette épître est adressée? C'était la première prédication qu'on avait eue il y a plus d'une année. C'est bien, il y en a qui vont regarder. En fait, elle n'a pas de destinataire précis. C'est à ceux qui ont reçu une foi semblable aux auteurs de l'Épître. Ceux qui ont reçu, en fait... Je perds mes notes. la foi salutaire qui repose sur la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En d'autres termes, elle s'adresse à tous les chrétiens. Ça, c'est ce que le texte biblique nous permet de savoir. Et puis, des commentateurs supposent que, que les destinataires de cette deuxième lettre pourraient être les mêmes que la première épître de Pierre. Il s'agirait donc de ceux qui sont dans la dispersion au pont. Alors, navré, je regarde ici, ce n'est pas les ponts de Martel, hein, c'est au pont, c'est dans la région d'Asie, en dessous de la mer Noire, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Là encore, il semble qu'il s'agit de chrétiens dispersés dans une grande région. Alors voilà mon point. Quoi qu'il en soit, Pierre n'adresse pas ses mots à une assemblée locale dont les membres, suite à cela, seraient amenés à soupçonner ses frères et sœurs. Non, Pierre nous informe de manière générale dans le monde chrétien, il y a de faux prophètes et de faux enseignants, et c'est d'ailleurs en fait ce qu'on peut constater quand on regarde autour de nous aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on peut observer au travers de l'histoire, les différents faux docteurs qui se sont levés et qui ont été à l'origine de bien des drames en amenant des fausses doctrines, des controverses. Maintenant, si Dieu nous enseigne ces choses au travers de Pierre, c'est quand même bien aussi pour nous mettre en garde. Dans les derniers chapitres, dans les derniers versets du chapitre 1, Pierre a martelé à nos yeux l'importance et l'infaillibilité des Écritures en soulignant qu'elle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Il nous a exhortés d'y prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, et cela jusqu'à la venue du Seigneur. Nous avons, chacun d'entre nous, la responsabilité de veiller à la lumière des Écritures sur ce qui nous est enseigné. Utiliser cette lampe qu'est la Bible et qui éclaire ce monde de ténèbres dans lequel on vit. De faire comme les Béréens en acte 17, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur enseignait était exact. Donc si ce texte n'a pas en vue de nous rendre soupçonneux envers nos frères et sœurs, nous ne devons toutefois pas oublier qu'aucune église n'est de facto immunisée contre les faux prophètes. Nous sommes appelés à être vigilants. Nous sommes en fait ensemble co-responsables de veiller à l'enseignement qui nous est donné, tout en nous appuyant avec confiance sur le fait que c'est le Seigneur qui bâtit son Église par le Saint-Esprit. À ce stade, deux premières applications. La première, vous l'avez compris, c'est notre responsabilité commune de veiller à ce qui nous est enseigné et aux enseignements auxquels on se soumet. La deuxième est qu'on ne devrait pas être surpris par la survenance des exemples que j'ai donnés en introduction, comme si on n'avait pas été prévenu. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses. Cela ne représente pas quelque chose d'inattendu. De triste, de dramatique, oui, c'est certain. D'inattendu, non. Par contre, il y a une bonne nouvelle. Nous avons pour nos vies dans la Bible l'exemple parfait du docteur par excellence. Jésus-Christ, il est le seul homme à avoir enseigné la parole de Dieu sans aucune erreur, d'une manière infaillible, avec autorité, amour et justice. C'est lui aujourd'hui qui veille sur nous et qui suscite des prédicateurs pour lesquels nous sommes appelés à prier. Alors pensons vraiment à prier pour chaque prédicateur, et particulièrement pour les anciens qui sont aussi responsables de l'enseignement qui est apporté dans l'Église. À présent que nous avons compris la certitude de l'existence des faux prophètes, des faux docteurs, notre responsabilité est de veiller sur ce qui nous est enseigné. Voyons leur manière d'agir dans ce texte. Ces gens donc qui ont renié le maître vont s'attacher à introduire insidieusement des hérésies de perdition. Et là, c'est intéressant de s'arrêter sur deux termes, insidieusement et hérésie. Le premier, insidieusement, est tiré d'un verbe qui signifie littéralement introduire en plus. Insidieusement, c'est introduire en plus. Cela signifie qu'ils n'arrivent pas avec un message ouvertement non biblique. Leur message contient des allures de vérité biblique. Le problème vient de ce qu'ils y ajoutent. C'est pourquoi il est possible que si vous avez une fois écouté une personne qui prêche l'évangile de prospérité, vous n'avez peut-être pas tout de suite vu le problème, surtout si vous êtes au commencement de votre cheminement avec le Seigneur, car tout le message est enrobé de versets bibliques. Mais bien souvent, ceux-ci sont tirés hors de leur contexte et le sens en est tordu. En fait, il existe un poison qui s'appelle l'arsenic. Et il a quelque chose de très pervers, ce poison. C'est qu'en fait, à faible dose, le corps va pouvoir l'évacuer. À haute dose, il va avoir un effet mortel immédiat. Mais dans une dose entre deux, le corps n'arrivera pas à l'éliminer suffisamment rapidement. Il va commencer à être stocké dans les membres. La personne ne va pas du tout se rendre compte qu'elle est en train de stocker l'arsenic. Et à un moment donné, quand un certain seuil sera atteint, à force d'en consommer en trop grande quantité, d'un coup, ça va se déclencher et la personne va vivre les effets mortels de ce poison. Ça signifie qu'en fait, on peut recevoir les meilleurs repas du monde. Le problème vient de ce qu'on y ajoute et qui pourrait passer inaperçu parce que justement son effet n'est pas immédiat. Le message des faux prophètes peut sembler justement avoir un fondement biblique, mais c'est ce qu'ils y ajoutent qui peut devenir mortel sur le long terme. Par exemple, concernant le salut par grâce, petit à petit, comme le prétendaient les judaïsants, on retrouve ça dans Galates, ça devient le salut par grâce plus la circoncision et le respect de la loi. Ou encore, comme le prétendent certaines branches du christianisme, le salut par grâce plus mes mérites, ou plus ma décision que j'ai eue à l'origine, à un moment donné. Mais là encore, on a une bonne nouvelle. C'est qu'on a reçu la Bible, la prière, et l'Église, dans notre cas, une Église locale fidèle. Nous pouvons étudier notre Bible quotidiennement, dans la prière, et surtout aussi dans le cadre des assemblées de l'Église. C'est ainsi que, dans sa grâce, le Seigneur va nous garder de la sorte. Et alors que l'arsenic peut passer inaperçu, le poison des faux docteurs, par la grâce de Dieu, ne passera lui pas inaperçu. Nous serons non seulement gardés du poison des faux docteurs, mais dans notre redevabilité commune, nous serons gardés aussi de nos propres erreurs d'interprétation grâce à nos enseignants et à nos frères et sœurs. Et en réfléchissant à cette notion d'ajouter, j'ai été frappé de voir à quel point le fait d'ajouter est à l'origine de nombreuses dérives. Or, quand je dis ajouter, c'est ajouter au même niveau d'autorité que la Bible. Et en fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être avoir ajouté la tradition, la sagesse humaine, la science, l'autorité d'un simple être humain qui se hisse à la place de Dieu, ou encore l'expérience personnelle et ou collective, ou pour finir, pourquoi pas encore un nouveau livre qui serait placé au même niveau que la Bible. Et en fait, plusieurs de ces choses, comme la tradition et la science, ne sont pas des mauvaises choses en tant que telles, tant qu'elles restent soumises à l'autorité de la Bible et reconnues comme faillibles. Que le Seigneur nous garde d'ajouter quoi que ce soit auquel nous donnerions une autorité équivalente à sa parole, que ce soit dans nos vies ou dans nos enseignements. Maintenant donc, non seulement les faux docteurs ajoutent, mais en plus, ils enseignent des croyances choisies. C'est le sens du deuxième terme qui est traduit par « hérésie », qui veut dire, à l'origine, des croyances choisies. Ainsi, le faux docteur enseigne donc des croyances qui sont choisies et qui ne relèvent pas de la révélation de Dieu. Encore une fois, son enseignement peut donner l'impression d'être biblique, mais il va picorer des éléments qui soutiennent sa propre pensée et ou tordre le sens des passages qu'il va invoquer. Les versets bibliques deviennent finalement des prétextes pour amener son faux enseignement. Au lieu de se demander ce que Dieu enseigne sur un sujet, il va utiliser la parole pour soutenir son propre enseignement. Il effectue en fait le mouvement inverse. À l'inverse, l'enseignant qui tire ses enseignements de la Bible ne transmet pas des croyances choisies. C'est le Seigneur qui a choisi ce que nous avons dans la Bible et notre mission est de l'enseigner le plus fidèlement possible et dans sa globalité. En fait, les mots dans la Bible ont un contexte. C'est la phrase dont ils font partie. Et la phrase, elle a elle-même aussi un contexte. C'est le paragraphe duquel elle fait partie. Et le paragraphe lui-même, c'est le chapitre, le livre. Le livre a été écrit à une époque, avec une alliance, etc. Et tout ceci dans le contexte global de la Bible, dans son entier. Et c'est ça la mission de l'enseignant, en fait. C'est de sortir le sens des textes en prenant en compte tous ces éléments-là. Et là, peut-être que ceux qui participent au groupe d'hommes, ça fait des résonances, puisqu'on est en train justement de lire un livre sur ce sujet-là, sur la manière d'interpréter. Et pour les femmes, il n'est pas moins important d'avoir une bonne théologie, une bonne compréhension de la Bible. Donc il y a beaucoup de bons livres qui peuvent être lus, et j'encourage vraiment quiconque qui aime le Seigneur à chercher à grandir dans la connaissance pour interpréter la parole de manière toujours plus fidèle. On doit donc toujours en fait se poser la question: qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici, et non pas appliquer notre propre pensée au passage qu'on est en train de voir. En résumé, on peut dire que les faux docteurs sont des personnes qui ajoutent des croyances choisies pour amener leur propre pensée et non celle de Dieu. Aussi, la présence des faux enseignants est une chose bien sérieuse, tellement importante que Jésus, Paul, l'apôtre Jean, Jude et Pierre en traitent tous de ce sujet de manière directe dans leurs enseignements qui se trouvent dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que, comme le dit le texte, ce sont des hérésies de perdition. Cela signifie que celui qui suit leurs enseignements s'en va au-devant de la perdition, en d'autres termes, de la condamnation. Voilà pourquoi ce sujet est si important et pourquoi nous devons veiller à ce qui nous est enseigné. Un célèbre pasteur américain d'une méga-church a publié il y a quelques années un livre dont le titre est dramatiquement parlant. Il s'agit de « Your Best Life Now », qui signifie « Votre meilleure vie maintenant ». Mais j'ai une question. Si ma meilleure vie est maintenant, laquelle m'attend dans l'au-delà? C'est dramatique. Et le témoignage de la Bible va complètement à l'opposé de cette déclaration. Pour prendre juste un seul exemple, Philippiens 1, 21-23, Paul nous dit « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Alors, comment éviter de tomber dans l'erreur de fausses doctrines? Voici quelques éléments. Pour commencer, la prière, mais aussi lire la Bible régulièrement et en entier. Participer aux différentes réunions d'église pour être enseigné et grandir dans la connaissance de la parole. Lire de bons livres qui sont éprouvés sur différents sujets. Se rappeler qu'un verset hors contexte est un prétexte. Se poser la question si le contexte et le sens du passage dans ce qu'on enseigne a bien été respecté. Et s'il me semble avoir une fois une compréhension nouvelle à propos d'un passage, soumettre ma compréhension à des frères et sœurs solides et avancés dans la marche chrétienne et me demander si d'autres avant moi ont compris ce passage de la même manière. Reconnaissant par là que le Seigneur n'a certainement pas attendu les années 2000 pour me révéler à moi personnellement quelque chose que personne n'aurait encore compris par le passé. Comme les Béréens, vérifiez dans la Bible les enseignements que nous recevons. Pour finir, je pense que cette question des outils qui peuvent nous aider, je pense que la réforme nous a laissé un bel outil, les 5 solas. Qui c'est qui se souvient des 5 solas ? Le Christ seul, l'Écriture seule, j'ai pas entendu,
la grâce seule,
la fidèle. la foi seule, et le reste un. À Dieu seul la gloire, exactement. Donc en fait, est-ce que ce que j'entends porte atteinte à l'une de ces cinq choses? La parole, la Bible, comme seule autorité et référence suprême pour nos vies. Le salut qui se reçoit au moyen de la foi seule. Et vous savez, peut-être juste encore par rapport à la Bible seule, ça peut nous paraître évident, mais en ayant quelques recherches comme ça, je suis tombé sur quelqu'un qui disait « Je vais vous révéler ce soir, donc dans une prédication, quelque chose que vous ne trouverez pas dans la Bible. » Ça peut nous paraître choquant à nous, parce qu'on est habitué au fait que l'autorité de l'Écriture... Mais de nouveau, le poison, il fait son effet petit à petit, en fait, chez les gens. Donc le salut qui se reçoit au moyen de la foi seule, ce cadeau, le salut qui a pour seule source la grâce de Dieu, le salut a pour seul médiateur Jésus-Christ, qui est le seul qui a accompli le salut, et le salut est pour la gloire de Dieu seul. Donc, l'Écriture seule, le Christ seul, la foi seule, la grâce seule et la gloire de Dieu seul. Ces cinq éléments peuvent nous aider à mener nos réflexions, même sur notre propre compréhension d'un passage. Maintenant, le texte nous dit aussi que beaucoup les suivront. Est-ce que ça vous surprend, le nombre de personnes qui suivent ces faux docteurs ? Personnellement, je dois dire que oui. En fait, il y a quelque chose de désolant auquel je n'arrive pas à m'habituer de voir un si grand nombre. Mais en fait, je ne devrais pas être surpris. La Bible ici dit clairement, et particulièrement dans ce passage-là, beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. C'est le verset 2. C'est triste, mais on ne devrait pas être surpris par le nombre. Alors, comment se fait-il qu'un si grand nombre de personnes suivent ces faux prophètes? Il y a quelques éléments. Matthieu 7, 15, Jésus nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Paul exprime la même idée en faisant un parallèle avec Satan. Dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, « Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces faux enseignants n'arrivent pas ouvertement en disant « Me voici pour vous perdre ». Ils viennent déguisés en envoyés de Dieu, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, et non qui œuvrent non pour le salut de ceux qui les suivent, mais plutôt pour leur propre porte-monnaie, comme le dit le verset 3. Ces faux docteurs promettent souvent tout ce que la chair peut désirer, la richesse, la santé, la paix, le succès. Et également, la parole nous annonce que les gens vont se fatiguer de la saine doctrine et vont rechercher des choses qui leur semblent agréables à entendre. C'est 2 Timothée 4, 3 à 4 qui nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Comme le disait C.S. Lewis ou Spurgeon, j'ai trouvé cette phrase rattachée à l'un et à l'autre, donc je ne sais pas, mais peu importe, c'est le sens de la phrase qui importe. « Il viendra un temps où au lieu d'avoir des bergers nourrissant les brebis, l'Église aura des clowns qui amuseront les chèvres. » Ça résume bien ce passage. À l'opposé, on retrouve aussi un autre principe qui plaît à la chair et qui est notamment traité dans Galates et la fin du deuxième chapitre de Colossiens. C'est le fait de participer à notre salut par l'observance de principes, de règles. C'est le fameux « salut par grâce plus quelque chose » au lieu du « salut par la foi seule » qui a pour origine la grâce seule. Cela sert à satisfaire notre chair, parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'humiliant de ne pas pouvoir contribuer à notre salut, de reconnaître notre plein échec, en fait. Et cela ça nécessite... Pardon. Donc aucune bonne œuvre, on ne peut pas ajouter de bonne œuvre, et donc dans l'observance de règles, de rites et de principes, il y a quelque chose qui peut aussi paraître humiliant, mais qui en fait flatte l'orgueil et satisfait la chair, comme nous le dit Colossiens 2. On continue maintenant dans le texte, où il est écrit que à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Et en fait, une personne de mon entourage m'avait dit à un moment donné, elle avait vu de ces reportages qui étaient allés à la rencontre de chrétiens dans le monde occident, et en constatant leur mauvaise vie, leurs mauvaises paroles, il me partageait son sentiment d'hypocrisie en me disant « Mais c'est ça, des chrétiens ?» Alors certainement que le reportage était allé à la rencontre des pires chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, mais c'est un exemple où on voit que la voix de la vérité est calomniée à cause de ces personnes-là. Et ça nous amène au prochain point, la suite du verset 2, on voit que beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voix de la vérité est calomniée. En fait, à l'époque de Pierre, il y avait une tendance à placer la connaissance au-dessus de la conduite. Les faux docteurs enseignaient ou cherchaient à faire croire que le comportement du chrétien n'avait pas d'importance puisque la grâce pouvait pardonner tout péché. Or, Pierre a justement souligné avec force, dans le chapitre 1, que la vraie foi doit être suivie d'une croissance à l'image de Christ. Et je vais simplement vous relire les versets 3 à 11 dans le chapitre 1, où Pierre commence dans les versets 3 à 4 par souligner le salut gratuit et ensuite nous montrer les suites de ce salut. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc en raison de ce salut, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est le problème en fait de la voix de la vérité qui est calomniée lorsque la foi n'est pas suivie par la croissance à la ressemblance de Christ. Si nous devons suivre le Seigneur mais que notre vie ne reflète pas les enseignements de Christ, alors les gens le voient. Ils constatent que nous ne sommes pas cohérents et cela les amène à calomnier la voix de la vérité. Toutefois, ici, je rappellerai quand même, comme nous le dit souvent Timothée, que la première marque du chrétien, ce n'est pas la perfection, mais c'est la repentance face au péché. Maintenant, quelle est leur motivation ? Enfin, on en arrive à la motivation de ces faux docteurs. Qu'est-ce qui les pousse en avant ? Eh bien, en français courant, on pourrait dire que c'est se faire de l'argent en exploitant ceux qui les suivent. 2 Pierre 2,3 nous dit « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. » Ces personnes sont motivées par l'amour de l'argent. Ils sont des mercenaires qui sont motivés par le gain plutôt que par le fait de servir volontairement, selon Dieu, de bon cœur et en cherchant à devenir des modèles qui dirigent vers Christ. Là encore, quel contraste avec notre divin berger qui a dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et encore, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 11, 14 et 15. Contrairement aux belles paroles des faux docteurs, nous savons que Jésus a joint les actes à ses paroles. Il a littéralement donné sa vie pour ses brebis afin de nous délivrer de l'emprise du péché, du diable et de la mort. Et pour quel salaire? Un gain sordide? Non, la Bible nous dit que la condition de Jésus-Christ était celle de Dieu, existant depuis toute éternité comme Dieu, dans une gloire inimaginable, dans un bonheur sans fin. Il a renoncé à tous ses privilèges divins pour venir sur cette terre et souffrir pour nos péchés. Alors, pour quel salaire? En réalité, c'est nous qui avons reçu le salaire. Son salaire, à lui, a été de porter notre condamnation et notre punition sur la croix. Et c'est nous qui sommes devenus riches en raison de son appauvrissement à lui. C'est nous qui avons reçu un don, une grâce tellement grande que nous n'arrivons pas à en saisir entièrement les répercussions, tellement elles sont infinies et qu'il nous faudra une éternité pour apprendre à connaître notre Dieu. En raison du salut accompli par Jésus, c'est par grâce seule que nous sommes sauvés, sans œuvre de notre part, au moyen de la foi seule et pour la gloire de Dieu seul. Et c'est gratuit, parce que Jésus a tout payé. Alors que ces réalités puissent nous remplir d'amour, de reconnaissance et de fidélité pour notre Seigneur et Sauveur. Et que si quelqu'un n'appartient pas à Christ, eh bien que ça puisse lui donner le désir de courir à ce Sauveur. Et j'en arrive à la conclusion, qui va se décliner en deux parties. La première partie, une réflexion sur nous-mêmes, et puis la deuxième partie qui sera tirée des versets 4 à 9. Premièrement, par rapport à ce danger d'ajouter des croyances choisies, est-ce que si je ne suis pas un enseignant, je peux être concerné par ça? Je peux quand même me demander si, en discutant avec mes frères et sœurs, ou dans le cadre de l'éducation que je donne à mes enfants, j'ai ajouté à la parole ou utiliser un passage hors de son contexte pour soutenir mon idée plutôt que celle de Dieu. Faisant de mes convictions personnelles une loi biblique, là où la Bible elle-même n'impose rien, en choisissant des passages qui m'arrangent pour soutenir mes propos, alors que ce n'est peut-être pas le sens premier du texte, en défendant mon point de vue comme si c'était celui de Dieu, en donnant à mon expérience une autorité similaire à celle de la parole. À titre personnel, ma conscience ne me reproche rien pour les présidences et les prédications que j'ai pu mener. Merci Seigneur. Mais je dois dire que quand je réfléchis aux choses sous cet angle-là, eh bien je ne suis pas convaincu d'être exempt de ce péché-là. Alors est-ce que ça fait automatiquement de moi un faux prophète? Non. Parce qu'on l'a dit, la première marque du chrétien, ce n'est pas la perfection, c'est la repentance. Et donc, si je reconnais un péché comme ça dans ma vie, alors je cours à Christ, je confesse ma faute, et puis, si besoin, je vais aussi vers une personne concernée par le fait que j'aurais fait ça, pour aussi lui confesser et lui demander pardon. Et alors, je ne doute plus. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors le Seigneur nous pardonne et nous libère. Et j'en arrive à la conclusion qui part du verset 3. La deuxième partie de la conclusion, pardon, depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. La version Tob traduit en disant que leur jugement, donc leur condamnation, ne chôme pas. Ce qui nous donne une illustration assez parlante, en fait. La condamnation de ces personnes n'est pas au chômage et leur perdition ne dort pas. Alfred Kuhn dit que leur perdition les suit sur leurs talons, elle les talonne. Alors si actuellement tout peut sembler aller bien pour eux, ils n'auront pas le dernier mot. Leur condamnation va les rattraper. Et c'est plutôt un sentiment d'effroi et de pitié que ces personnes devraient susciter, car elles auront à rendre des comptes pour chaque âme qu'elles auront perdue. Chaque âme en recherche du Seigneur, qu'elles auront détournée par un faux évangile, elles auront à rendre des comptes et ce jugement est déjà à l'œuvre maintenant. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dans les versets 4 à 9, va utiliser la situation des anges déchus et deux exemples historiques de l'Ancien Testament qu'on a lu en introduction, le déluge et la destruction de Sodome et Gomorre, pour 1. Nous rassurer, Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 2. Soutenir cette affirmation du verset 3 que la condamnation de ces justes est certaine et Dieu les châtiera au jour du jugement, ce qui est pour nous un réconfort. Donc les versets 4 à 9 qu'on va relire, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Donc concernant la condamnation des impies, le texte prend pour exemple que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché et qu'il les a précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Et comme deuxième exemple, il prend celui du déluge. Dieu n'a pas épargné le monde ancien. Et pour finir, l'exemple de la destruction de Sodome et Gomorre. La conclusion que le texte nous donne est que nous n'avons pas à douter ou à craindre. Dieu jugera ces hommes trompeurs, ces faux enseignants et leur hérésie de perdition. Au jour du jugement, ils rendront des comptes et ils recevront le salaire en retour de leurs œuvres. Et puis Pierre veut aussi nous rassurer. Au moyen des mêmes exemples, Dieu nous démontre que non. Au moyen des mêmes exemples, Dieu nous démontre que non. Non, là je... Dieu, oh, navré, on arrive bientôt à la fin. Donc au moyen des mêmes exemples, oui parce qu'à la base c'était une question que j'avais notée, devons-nous craindre? Mais en fait je préfère la formulation que Dieu veut nous rassurer. Alors que nous avons vu que le jugement de Dieu, on a vu le jugement de Dieu s'abattre sur le monde ancien, avec le déluge sur Sodome et Gomorre, notre Seigneur nous parle de personnes qui ont vécu au milieu de ces personnes et qui pourtant ont échappé à ce jugement. Alors que le déluge s'abat sur le monde ancien, Noé, prédicateur de la justice, ainsi que sa famille, est préservée. Alors que le jugement s'abat sur les villes de Sodome et Gomorre et les détruit, Lot le juste est délivré également. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à une chose, mais en relisant ces textes, il y a quelque chose qui m'a frappé. En fait, Lot, ils ont dû le tirer. Il ne voulait pas partir. Et c'est les anges qui l'ont pris par la main et qui l'ont sorti avec sa femme et ses deux filles. Si donc au milieu de deux générations si mauvaises, Dieu a su faire venir le jugement sur elles tout en préservant ce qui lui appartenait, c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alors non, nous n'avons pas besoin de craindre ces faux docteurs. Le Seigneur saura nous garder, lui qui est fidèle. Et cela doit aussi nous motiver à vivre une vie de piété en nous appuyant entièrement sur le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa sagesse, sa grâce, son discernement et surtout de compter en tout et pour tout sur lui et sur son œuvre qui est entièrement suffisante à la croix sans rien y ajouter.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.